Et j'ai compris que c'était mon chemin. J'avais entendu parler dans une classe de français ou de philo à l'âge de 15 ans, 14, 15 ans, 15 ans, non, 14, que y avait une nouvelle matière, c'était la psychoneuroimmunologie. Ça, c'était en 65, il y a longtemps. Hein. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, ah, voilà, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai tracé sur cette ligne droite de la psychoneuroimmunologie. Mais là, il manque un mot que je rajouterai aujourd'hui. C'est le ressenti corporel. C'est-à-dire l'aspect physiologique du ressenti, ce que vous vivez dans vos tripes. Ça, c'est la vérité. Il y a quelque chose qui parle. Et c'est ça qui est très, très important dans la pratique de la méditation. Et d'ailleurs, les plus grands maîtres de cette pratique, eh bien, ce sont les rishis. Il y a 1500 à 500 ans avant Jésus-Christ. Il y a longtemps, hein, les rishis. C'est-à-dire les maîtres, ceux qui savent, ceux qui ont vu. Et donc, ils ont appelé ça les Védas, le savoir. Mais ce n'est pas un savoir cognitif, pas du tout. C'est un savoir par l'expérience personnelle uniquement. Vous voyez ? Donc, cette nouvelle psychoneuroimmunologie, c'est très très vieux. Hein ? Ça date de ce temps-là, 1500 avant Jésus-Christ. Donc, ces grands maîtres ont su, donc, parler de mille manières de la valeur et des bienfaits de la seule approche concevable pour aller vers le divin. On appelle ça le divin, mais on peut dire aller vers la résonance universelle. Voilà. C'est l'expérience personnelle qui seule conduit à l'harmonie. Ça, c'est le Véda. Ça, c'est la sagesse des Védas. J'insiste, l'expérience personnelle, ce que vous vivez dans vos tripes, qui va conduire à l'harmonie. Si vous commencez à permuter avec des pensées qui essayent de comprendre, de résister, d'expliquer et tout ça, vous allez droit dans le mur. Parce que ça, ce n'est pas de l'expérience personnelle, désolé. L'authenticité d'une sensation vécue, d'une émotion vraie, d'une intuition subtile, d'une approche sentie de la réalité, il rajoute divine, parce qu'en vérité, oui, c'est vrai, la réalité, elle est divine. L'essence de vie, c'est divin. Nous, on ne sait pas faire ça. C'est une des plus grandes révolutions spirituelles que l'humanité ait jamais connue. C'est l'éveil à une prise de conscience de l'être profond qui dort en chaque individu. Aucun enseignement didactique ne peut remplacer cela et ne l'a jamais remplacé. C'est un enseignement très ancien. Et il va droit dans le mille. Alors de là, il y a des tas de branches qui sont nées. Hein? Et des poésies, des nouvelles façons d'aborder, qui suis-je, comment me retrouver moi, le vrai moi. Parce que, comme dit Patanjali, on passe son temps à voiler le vrai moi derrière des voiles de résistance, de peur, de tristesse, de rejet, d'essayer de paraître de telle chose. Et Juan Ramón Jiménez, ce monsieur est intéressant, il a écrit un poème qui est, dont le titre est « Yo no soy yo », « Je ne suis pas être ». « Je ne suis pas moi », voilà, ça c'est la traduction, dit-il. « Je suis celui qui va à mes côtés sans le voir, que parfois je vais voir et que parfois j'oublie. » Ça dit tout. « Celui qui se tait, serein quand je parle, celui qui doucement pardonne quand je hais. » Ah là, on arrive à quelque chose de profond. Celui qui se promène où je ne suis pas. Ah, voilà encore autre chose. Celui qui restera debout après ma mort. Ah, ben voilà. Donc, dans les pratiques indiennes, on appelle cette partie de soi jiva, jivatman. En Occident, je crois qu'on appelle ça l'âme, c'est-à-dire la partie de soi qui est un peu comme, j'aime bien donner l'image de l'âme qui est une chanson. C'est une population indienne d'Amérique. Quand quelqu'un naît, on crée une chanson pour cette naissance. Et ensuite, cette personne a cette chanson pour toute sa vie. Et quand elle meurt, on chante sa chanson. Donc finalement, la chanson reste. Vous voyez, nous, qu'est-ce qu'on est? Eh bien, on est la partition, le morceau de papier. C'est tout ce qu'on a le corps, là. N'empêche que si on a oublié la chanson, cette partition, elle est vraiment importante. Donc notre âme descend dans la partition pour justement nous faire connaître comment on vibre, comment on tâte. Hein? Donc ce morceau de papier, c'est notre corps, il est très important. C'est le seul outil qu'on a qui va transmettre la chanson. Si on ne la connaît pas, si on vient de naître. Et donc, c'est très important de faire tout son possible pour prendre soin de cette partition sur une feuille de papier. Il y a des grands, Mozart, Beethoven, ils ont perdu des papiers, ils ont perdu des musiques, et bien on les retrouvera plus jamais, ça ne sera jamais fait, ça ne sera jamais joué. Donc, c'est une analogie avec le corps. Il faut vraiment prendre soin. Comme dit le proverbe indien, prends bien soin de ton corps afin que ton âme ait envie d'y rester. Et c'est là où, vraiment, dans les retraites, on peut justement apprendre à venir de plus en plus près de notre corps. Et arrêter de faire ce que décrivait James Joyce en parlant de Monsieur Duffy, qui disait « Monsieur Duffy habitait à une petite distance de son corps ». Eh oui, c'est ce qu'on fait toute la vie. On habite à côté. Oh. Et alors dans les retraites, eh bien on essaye de rentrer dedans. Moi j'appelle ça le royaume. Et quand on en sort, et qu'on est à côté de la plaque, c'est l'exil ou les paradis perdus. Ça y est, on est sorti du paradis, on a été chassé. Hein, on retrouve ça. Et c'est important donc de comprendre comment je fais finalement dans les retraites pour m'approcher le plus possible de moi-même, de ce qui vibre, de ce qui est l'essence de moi-même. Et arrêter de me laisser berner par les voiles de la souffrance. Il y en a énormément de ces voiles. C'est dans les sutras de Patanjali. Alors Patanjali, c'est un grand maître qui a écrit environ, on pense, c'est un peu comme Shakespeare, hein, c'est un personnage un peu mystérieux, on pense c'est 200 ans après Jésus-Christ. Enfin, il y a d'autres écrits qui disent que c'est même avant Jésus-Christ, donc voilà. Mais dans le sutra 1.30, hein, il énumère les obstacles. Et c'est ça qu'on a besoin de les voir. Je vais vous les citer, il y en a 9. La maladie, vidya. Donc, quand on a la santé, finalement, on arrive à se tenir à l'intérieur de soi, au centre de soi. Le deuxième, la stagnation mentale et la torpeur, sthiana. Le troisième, le doute. Le quatrième, l'imprévoyance. On peut appeler ça aussi la précipitation. Souvent, on ne fait pas attention et on tombe dans des accidents, on se retrouve sur un lit d'hôpital, on a été trop vite. On n'a pas prévu. Cinq, la fatigue. Ça, la fatigue, c'est très fort. Ça empêche la recherche de l'essence de soi. 6. L'excès de complaisance. Ah oui, là, quand on tombe dans les plaisirs sensuels, hein, trop boire, trop manger, trop de tout. 7. Les illusions, les vues erronées et les projections. Ah, ça, c'en est un gros dans lequel on tombe tous. 8. Le découragement. Et Victor Hugo dit quelque chose à ce sujet que j'adore. Il dit « Désespérer, c'est déserter. » Donc arrêtons de désespérer. Mettons-nous à l'action. 9, le dernier, l'instabilité, l'inconstance. Car cet obstacle nous empêche de pratiquer la persévérance. Bon, vous voyez, tous ces obstacles, eh bien, il est important d'apprendre à les voir d'abord. Et à les voir, et à voir comment ils activent des sphères émotionnelles et psychiques et mentales qui sont mauvaises, qui sont déplacées, qui font mal à soi-même ou aux autres. Et alors c'est là que c'est intéressant parce que il y a beaucoup de différentes façons d'approcher ces problèmes et de les éradiquer petit à petit, de se nettoyer. C'est une détoxication mentale. Et ça se fait par le corps. Quand on fait du yoga. Mais aussi, ça se fait dans la méditation. Parce qu'on on a découvert dans les neurosciences que la pratique de l'attention dans la méditation, vous voyez, quand je vous dis revenez au corps, revenez à l'ancrage, revenez à votre souffle, revenez, vous restez bien attentive. Et quand vous êtes sur un filon où il y a de la souffrance, de la douleur ou autre chose, vous restez dessus pour approfondir. Hein, c'est comme l'image de un bout de verre que vous avez dans la peau, vous en avez enlevé un petit peu, mais il en reste encore, ça fait encore mal. Donc il va falloir aller encore plus profondément pour aller le chercher, ce bout de verre. Et ce qui se passe, c'est que la pratique de l'attention, on a découvert qu'elle désactive le cortex singulaire postérieur. Cette partie du cerveau est active quand on est dans un comportement en mode par défaut, c'est-à-dire quand on manque d'attention. Elle s'active, cette partie du cerveau s'active quand on manque d'attention. Alors ça mène à des troubles de l'anxiété, de la mémoire, de la concentration. Ça mène à des douleurs, des souffrances et c'est possible Alzheimer. On est en train de justement faire des recherches là-dessus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a remarqué que la méditation désactive cette partie du cerveau. Le cortex singulaire postérieur. Grâce à l'attention. Bien sûr, il faut que ce soit une attention juste. Et c'est là où les enseignements peuvent vous aider à rester dans le droit chemin, d'avoir une attention juste. Et de ne pas vous leurrer, vous berner en vous disant que vous avez une très bonne pratique de l'attention, malheureusement, vous êtes en train de prendre un peu de cocaïne pour que ça marche mieux, ou un petit peu de d'autres choses, ou un peu d'alcool, ou alors vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, alors vous dites que vous êtes fort, ou alors vous enseignez, vous avez 1000 personnes devant vous, grand micro, parce que vous êtes sur la toile. Tout ça, ce n'est pas de l'attention juste. C'est pas juste. Faire attention, on peut facilement se berner, se leurrer, se perdre. Alors, cette pratique finalement, qu'est-ce qu'elle nous demande ? Elle nous demande à être très humble. Il dit adage, c'est un adage kitsché. Kitsché, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un groupe de personnes d'Amérique du Sud ou une population. Ils disent, il faut être humble pour pouvoir apprendre. Ah, voilà. Donc, pour pouvoir apprendre, il est bon d'être dans l'humilité. Humilité, ça vient de humus. Humus, c'est ce qu'il y a là, c'est le terreau, c'est la terre, c'est ce qui est vivant. Et donc, quand on se baisse plus bas que terre, on est dans l'humilité. Quand on est humble, c'est ça, vous voyez. Donc, c'est une qualité qui est importante. Une autre, c'est Goethe qui le dit, parler est un besoin, écouter un talent. On a besoin d'écouter. Mais dans la méditation, il ne s'agit pas d'écouter les autres, les oiseaux ou autre chose, il s'agit d'écouter, d'avoir une oreille attentive, un cœur qui écoute. C'est le cœur qui écoute. Donc, pour en revenir à cette méthode très pragmatique, il faut passer par la reconnaissance de nos obstacles. Comme dit Arnaud Desjardins, on ne guérit pas des blessures, on en émerge. Voilà. Ça, c'est juste. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes des émotions. Les seuls êtres à ne pas passer par les moments de peur, de tristesse, d'envie, de déception, etc., sont les psychopathes. Vous voyez ? Donc c'est humain d'avoir toutes ces émotions. Et c'est là où c'est important de comprendre. Il est important d'en faire l'expérience de l'émotion. Et cette expérience, comment elle est ? Eh bien, elle se glisse dans chacune des cellules de votre corps. Et elle va vous faire vibrer différemment. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez sentir une constriction, par exemple, au niveau de la gorge, parce que vous avez une envie de pleurer. Ou alors un poids qui pèse dans le thorax. Hein, c'est quelque chose de lourd, qui est pesant, qui n'est pas encore sorti. Il y a d'autres personnes, elles le sentent dans l'abdomen. C'est ressenti différemment dans le corps suivant les personnes. On est tous branchés différemment. Et donc c'est important de vraiment vous écouter. C'est ça, c'est cette qualité d'écoute à ce qui se passe en vous. Et donc il est très important de comprendre que dans la méditation, il y a deux volets. Le premier volet, c'est de trouver le calme mental, qu'on appelle dans le yoga samadhi, c'est le mot sanskrit, qui veut dire l'illumination, le calme mental. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle, et ça y est, tout est calme, le mental s'est calmé, et on est bien. Voilà, ça c'est le premier volet. Et c'est important de le vivre avant de passer au deuxième. Le deuxième volet, qui fait partie aussi de la méditation, c'est ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est la partie qui nous amène à la porte d'une sphère émotionnelle vécue et qui vibre encore dans notre corps et qui, quand c'est réactivé, parce que quand on n'a pas mal vécu une émotion, quelque chose qui nous est arrivé, on a une émotion et on ne se donne pas l'écoute et l'attention, on passe à côté, on sourit, on a l'air de très bien, tout va bien. N'empêche que ça ressort le soir, quand on est seul, tout ça, ça remonte. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu comme une cicatrice qui ne s'est pas refermée. On est une plaie ouverte. Et quand on se présente au monde, finalement, c'est comme si il y a des personnes, elles touchent cette plaie. On a une réaction immédiate de douleur et on s'en prend à la personne. Ça, c'est une projection, parce qu'en vérité c'est nous qui avons cette plaie et c'est nous qui n'avons pas guéri cette plaie. Donc, étant donné qu'on ne guérit pas des blessures mais on en émerge, dit Arnaud Desjardins, c'est encore mieux, émerger de cette plaie. Comment on fait? Eh bien, il suffit, comme disent les Védas, il suffit de le vivre. Et comment on le vit? Eh bien, en méditation, parfois, il y a des bulles qui remontent, vous savez, comme si c'était... un lac, et puis il y a des choses qui pourrissent, il y a des choses qui se transforment chimiquement, et puis il y a des bulles qui remontent, il y a de la vie. Et les bulles qui remontent, eh bien, ça a une odeur peut-être. Oh, et quand vous méditez, vous dites, oh, oula, cette odeur, je la connais, oulala, j'en veux pas. Ah oui, ben voilà. Sauf qui peut. C'est ce qu'on a appris à faire. Malheureusement, c'est pas bon. Ce qu'on apprend à faire maintenant dans les retraites, avec la méditation, on apprend à avoir l'intelligence émotionnelle de tourner son regard vers cette bulle qui est remontée et qui pue. Et étant donné que ça pue, on a une réaction physiologique. Les cinq sens se mettent en éveil, là. Et il est important de les observer, d'être avec elles, de les accompagner. C'est ça l'humilité, c'est de se rendre compte que finalement, il y a des choses qu'on n'a jamais pris le temps d'écouter en soi. Et qui sont bien vivantes. Et en plus, si vous nettoyez pas ces endroits, ça va continuer à aller dans la putréfaction et ça va vous prendre toute votre énergie psychique. Il y a des gens, ils arrivent en milieu de vie, ils disent « je suis éreinté, je suis claqué ». Mais ils sont claqués parce qu'ils passent leur temps à résister contre quelque chose qui se passe dans leur corps. C'est ça, ils vont à contresens. C'est comme ramer à contre-courant, comme un saumon. Eh bien oui, ben, on finit par mourir. Hein. Ça nous tue à petit feu. Donc, le chemin est d'être ouvert aux émotions qui se présentent à soi pendant la méditation. Et c'est pour ça qu'on reste longtemps dans la méditation, parce que dans le premier volet, ce calme mental, on n'a pas beaucoup d'émotions, il y a surtout de la joie, du délice, on est bien, voilà, tout est magnifique. Dans le deuxième volet, on passe par... ça fait partie de la concentration. Hein, on passe par cette étape où, petit à petit, la joie et le délice, bien, ils sont là, mais enfin, voilà, il y a autre chose en dessous. Et ça fait des bubules. Et ça sent mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se met à l'écoute. C'est inutile de parler maintenant. D'ailleurs, le mental, il ne fait que de parler. Ne l'écoutez pas. Ça, c'est le diable. On écoute avec le cœur. Donc, il y a plusieurs émotions. Il y a des émotions universelles, comme la colère, la peur, la surprise, le mépris, la joie, bien sûr, il y a des émotions agréables, hein, le dégoût, la tristesse. Vous voyez ? Donc, je rajouterai aussi le désir. Il y a sept émotions universelles, dit un autre enseignant. Le désir. Alors, pour comprendre finalement ce que vous ressentez, parce que souvent on ressent des émotions, on se dit c'est quoi ça? C'est une zone grisâtre. On n'arrive pas à spécifier exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Et alors, je vais vous donner certaines définitions qui vont vous aider justement à être plus spécifique sur qu'est-ce que je vis là, si vous travaillez sur le domaine émotionnel. Parce qu'on peut aussi travailler sur le domaine physiologique, ce que vous ressentez dans votre corps. Ce sont deux voies qui sont très bonnes, autant l'une que l'autre, et c'est important d'utiliser les deux. Pour le désir, le corps se tend vers dans le désir. On aime plus le désir que l'être désiré, quand on pense à... quand on aime quelqu'un. C'est le désir qu'on aime, c'est ça qui crée les endorphines, qui excite. C'est le désir qu'on sent plus que l'être. L'être désiré, il devient juste un moyen de nous délecter. Ça, c'est pour quelqu'un qu'on aime. Voilà. Cela attise de la joie, de l'enthousiasme, de la surprise et du découragement parfois. Parce que l'être désiré n'est pas forcément comme on désirait qu'il soit. Mais le désir, c'est quelque chose qui nous permet de nous divertir en virtuel. Malheureusement, si c'est virtuel, c'est frustrant. Donc finalement, on est insatisfait. Et c'est ce qui arrive beaucoup avec les drogues, des tas de choses où on est complètement arnaqué par un besoin, une envie de ça. Une deuxième émotion, l'aversion. Alors, toutes ces émotions, alors le désir par exemple, c'est une émotion où finalement on est propulsé vers l'avant. On est propulsé vers, on n'est plus chez soi, on ne s'habite plus. La deuxième, l'aversion. Et dans l'aversion, le corps se contracte. Il y a parfois même du dégoût, il y a du rejet, on n'en veut pas. Et ça, c'est très très fort. En méditation, ça arrive beaucoup. Parce que quand on vit quelque chose en méditation qui est difficile à vivre, hein, et qu'on ne veut pas traverser, on dit « Ah non, pas encore. Hein. Oh, pas celui-là. Hein. Tu ne me le fais pas. Hein. » Alors, on pense à autre chose, on fait des trucs, enfin, on planifie d'aller à Costa Rica ou... On se chante une chanson, ou on regarde ce qui se passe dehors. On fait tout pour ne pas faire face. On regarde de l'autre côté. Et aussi, l'aversion, donc le corps se contracte, on devient très très fermé. Parce que finalement, on ne veut pas faire face au désagrément, au désagréable, à ce qui ne nous plaît pas, à ce qu'on n'aime pas. Et donc, les personnes qui ont beaucoup d'aversion, ce sont des personnes qui ont tendance à chercher le plaisir, justement. Pour en échapper. La tristesse, voilà encore une émotion universelle. Alors, quand il y a la tristesse, il y a aussi l'inquiétude. Parce que on se dit, Si je m'ouvre à ça, je vais me perdre. Si je m'ouvre à ma grande tristesse, je vais me perdre. On est tellement identifié à la tristesse, parfois, qu'on se noie là-dedans. C'est comme un tsunami, ça nous emporte. Il n'y a plus personne après. Qui suis-je alors ? Mais je suis bien plus que ça. Ce qu'on apprend à faire avec les émotions en méditation, c'est de se dire « Je ne suis pas tristesse. J'ai de la tristesse. » Ou « Tristesse, il y a de la tristesse en moi. » Voilà. C'est tout. Mais il y a beaucoup d'autres choses en moi. Il y a des désirs, il y a des choix, il y a de l'intelligence, il y a de la beauté, il y a de la gentillesse, il y a de la découverte, il y a tas de choses. Je suis énormément de choses, je suis l'univers. Je ne suis pas que tristesse. Et donc, vraiment, vraiment, faire attention à ça. Ne pas s'identifier avec une émotion et se laisser emporter par elle. Sinon, on perd confiance. Et on se replie. Il y a une lourdeur dans le cœur quand ça arrive. Et finalement, une façon de s'en sortir sans la traverser, cette tristesse, eh bien, c'est trouver des refuges dans des ressources extérieures. Mais finalement, quand on fait ça, la tristesse nous taraude comme un fantôme. Une quatrième émotion, c'est la colère. Et la colère, il y a des ressentiments. Quand il y a de la colère qui monte en soi, parfois, donc, avec cette colère, on a envie d'attaquer. Ce qui se passe avec la colère, c'est que souvent, ce sont des vieilles histoires qui rebondissent. Et c'est important de remarquer physiologiquement, les sensations dans les mains sont moites, mâchoires crispées, des pensées de vengeance, le blâme. Et croire profondément, c'est erroné, hein, mais on peut se dire, ne pas condamner autrui implique que j'y consens. Donc finalement, on décide de rester dans la colère. Et on décide de plus en sortir. Sinon, c'est comme si on consentait, si on lâchait la colère, si on lâchait tout ça. Et il y a un proverbe qui dit « Voulant jeter un charbon ardent à l'autre, on se brûle soi-même. » C'est finalement, la colère, ça nous fait plus de mal à nous qu'à l'autre. C'est Dalai Lama qui dit ça comme ça. On lui disait, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas en colère, vous n'avez pas de haine envers les Chinois, tout ça, ils vous ont tout pris. Et il disait, ah ben non, si je suis en colère, ça va me détruire, ça ne les détruit pas. Ma colère ne leur fait rien. Je le fais envers moi-même. Donc je me fais du mal. Donc ce n'est pas le chemin à prendre. La colère, donc, c'est destructeur pour soi. Et l'esprit brûle, et chaque pensée l'alimente. Et ce sont des pensées de justification dans la colère. On cherche à avoir raison. Gandhi dit, la vieille philosophie de l'œil pour l'œil n'a jamais fait que des aveugles. Oh là là. Bon. Toutes ces émotions. précaution, je vous en parle au niveau émotionnel, mais elles sont aussi à expérimenter au niveau physiologique, physique, dans votre cœur, dans votre corps. La cinquième émotion universelle, c'est la culpabilité et l'auto-jugement. Et en général, c'est un sentiment qui accompagne la colère. Et quand ça se passe, on se dévalorise. Et on prête raison à soi-même, à notre faute, et à étant l'objet de la colère de la colère de quelqu'un d'autre, par exemple. Il se met en colère contre nous, on se dit, ils ont raison. Vous voyez, c'est terrible. Il y a une dévalorisation énorme et c'est très destructeur. Et finalement, on n'a aucune défense pour se débattre. C'est comme une blessure sourde d'injustice et d'abandon primaire. Blessure sourde d'injustice, c'est formidable ça. Sourde, c'est-à-dire que personne ne s'exprime. Et on reste avec la blessure. Et ça, c'est donc très, très destructeur. C'est important de remarquer cette émotion difficile à traverser et à travailler. Et la sixième émotion universelle, c'est la peur. Alors, la peur, c'est insupportable, bien sûr. Il y a la fuite, sauf qui peut. C'est Woody Allen qui disait « J'ai pas peur de la mort, sauf que je veux pas y être quand elle arrive. » Ah ben oui, ça c'est très Woody Allen. Voilà. La fuite totale. Résistance à faire face. Ah ça, c'est on se connaît là-dedans, on se reconnaît. Ça va jusqu'à la sidération parfois. Mais donc, le travail dans la peur, c'est de faire l'expérience directe de cette peur. Parce qu'elle se dissipe ensuite. Sinon, quand on a peur, eh bien après, on a peur d'avoir peur. Et quand on a peur d'avoir peur, on a peur de tomber dans la peur d'avoir peur. Et c'est un cercle vicieux. C'est comme les miroirs, les vitres, les glaces dans lesquelles on se voit de plus en plus petit. Mais sachez que la peur est une réaction naturelle quand on se rapproche de la vérité. Ça, c'est Pema Chodron qui a dit ça. J'adore. La peur est une réaction naturelle quand on se rapproche de la vérité. Donc finalement, il y a des peurs qui sont saines, dans ce sens que on voit les choses en face. On ne cherche plus à les esquiver. Et savoir aussi que la peur, c'est un signal d'alarme naturel qui préserve des périls de l'angoisse. Donc, si vous n'écoutez pas et ne travaillez pas avec ça, avec la peur, vous allez tomber dans l'angoisse et aller de plus en plus profondément dans d'autres états secondaires qui sont encore plus destructeurs. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a tous les outils en soi pour travailler, pour traverser les étapes difficiles où il y a des émotions difficiles ou bien des sensations difficiles à vivre. Les sensations difficiles viennent avec les émotions, bien sûr, elles sont ensemble. Hein? Donc, tristesse, on sent le serrement de la gorge, la peur, on n'arrive plus à respirer, et puis on a les épaules très levées, dans la peur, on a les mains moites aussi peut-être. Il y a la colère, donc dans la colère, on sent le feu qui monte dans le corps, dans la tête, on s'échauffe tout seul jusqu'à brûler. Toutes ces émotions, finalement, donc elles ont une façon de se faire connaître à vous en vous donnant des sensations corporelles. Et c'est ça, c'est là où je vous demande d'être dans l'assise, sans bouger, à les sentir. Vous voyez, cette deuxième partie d'intelligence émotionnelle, où on apprend à traverser et à ressentir et à vivre les sensations désagréables qui sont liées aux émotions, bien, Thiogène Trungpa Rinpoché, il décrit ça comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Eh oui, c'est ça. On se leurre pas, c'est très très douloureux. Je suis d'accord. N'empêche que quand vous allez chez le dentiste pour vous faire arracher une dent, parce qu'elle était mauvaise et que vous aviez très mal, bien après vous n'avez plus mal. Donc, les deux courants de sagesse que j'utilise nous montrent la voie tous les deux. Donc il y a le courant de la sagesse de l'Inde avec le yoga, les Védas et tout ça. Et il y a l'autre courant de sagesse avec des enseignements du bouddhisme. Ils mènent tous les deux vers la délivrance. Mais le chemin est un peu différent. Mais on peut appliquer les deux chemins et les connaître. Donc dans le chemin du bouddhisme, ce que dit le Bouddha, c'est les quatre nobles vérités. C'est-à-dire qu'il y a la première noble vérité, il y a souffrance. Nous vivons la souffrance quand nous sommes sur terre. C'est un fait. Personne sur terre ne souffre pas. La deuxième noble vérité, c'est que s'il y a souffrance, il y a quelque chose qui l'active. Donc une racine. Et la troisième noble vérité, c'est que s'il y a quelque chose qui l'active, une racine, eh bien, ce que je vais faire, ben, je vais la déraciner. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Et la quatrième noble vérité, c'est comment déraciner et tout enlever. Et oui, le travail mal fait, ça arrive très souvent, c'est comme si on a encore un petit bout d'écharde dans le doigt et on n'arrive pas à sortir, il faut charcuter ou alors attendre longtemps et elle va sortir toute seule. Et ça c'est étonnant, c'est une qualité du corps qui est toujours là et c'est important de le savoir. C'est que si vous reposez, vous ne le touchez plus le doigt, vous le protégez pour qu'il ne soit pas sali ou avec des bactéries ou qu'il attrape ou attraper quelque chose. Et ensuite, petit à petit, après quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, ce qui était dans la chair va ressortir, être rejeté par le corps. C'est magnifique. Et ça, donc, c'est ça les enseignements dont je vous parle. C'est que quand on fait le yoga nidra tous les jours pour se déposer, pour se reposer, quand vous faites la relaxation, 10 minutes minimum après les pratiques de yoga, hatha yoga, les mouvements, eh bien, dans ces 10 minutes, Mère Nature fait le travail. Et on n'a pas besoin de comprendre, on ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne sait pas comment elle fait. En tout cas, elle le fait. Elle remet les choses en place. Donc, la quatrième noble vérité, je ne vous ai pas tout dit, comment on fait? Eh bien, on finit par comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire et qui doivent être justes, qui doivent suivre un chemin juste. Donc, il y a trois qualités justes qui ont à voir avec la sagesse. Il y en a une, c'est la parole juste. C'est-à-dire quand vous ouvrez votre bouche, vous dites des vérités. Il y a l'ancien président des États-Unis, je nommerai pas cet homme, mais a dit que des fake news, des contre-vérités, c'est une abomination. Voilà la parole juste. La deuxième qualité qui fait partie de la sagesse, c'est la compréhension juste. C'est-à-dire si vous ne comprenez pas ce qui se passe, eh bien, vous avez donc du travail à faire pour y voir plus clair. Et ça, en méditation, ça peut se décanter tout seul. La troisième qualité de sagesse, c'est la pensée juste ou l'intention juste. Parce que c'est vrai, on peut penser des tas de choses erronées, complètement fausses. Et vivre à côté de la plaque. Et alors après, on n'est plus en résonance avec les autres. On s'aliène. Ensuite, les trois suivantes, numéro 3, 4, 5, 6, ce sont des qualités de comportement. La parole juste, je l'ai dit déjà, oui, pardon, ça, comportement, oui, donc finalement, désolé, ça devait être dans le comportement, ça, c'est pas la sagesse. Ensuite, l'action juste, et l'action juste, j'aime bien ce qui a été dit par, c'est un anglais, je ne sais plus son nom, il disait « Le mal triomphe par l'inaction des gens de bien, des gens du bien. » C'est pas mal ça. « Le mal triomphe par l'inaction des gens du bien. » est le moyen d'existence juste. C'est une conduite éthique et un travail éthique qui entraîne une certaine moralité. Hein? Donc, ensuite, les derniers qui viennent d'une discipline mentale, c'est là où la méditation entre en compte. L'effort juste, l'attention juste, comme la pleine conscience, et la concentration juste. Donc je résume. Le premier, c'est la compréhension juste, et le deuxième, c'est la pensée juste. Voilà. Le troisième, c'est la parole juste, ensuite l'action juste et le moyen d'existence juste. Et ensuite, les trois derniers, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste.
Est-ce que tu peux aider à la différence entre attention et concentration ?
C'est une bonne question. L'attention juste a une qualité de présence, par exemple quand tu conduis sur la route. Tu as une attention juste où tu vois la route, mais tu vois ce qui se passe autour aussi. Tu vois s'il y a quelqu'un qui traverse, tout ça. Tu fais attention. La concentration juste, c'est plutôt d'avoir un regard qui va cibler comme le rayon du soleil sur un diamant et qui va faire du feu. Là, tu cibles sur une seule chose, un seul objet. Si tu es conduisé comme ça, tu aurais des accidents tout de suite. Tu vois ? Voilà. Bon, donc, vous voyez, les deux courants qui viennent d'Inde ou qui viennent du bouddhisme ont tous les deux des enseignements qu'on peut utiliser dans les retraites. Je peux vous enseigner à partir des deux. Je trouve les deux complémentaires, magnifiques. Et la pratique du yoga avec le corps présent, je trouve que c'est un outil qui est un peu comme accorder son piano. Et pour faire une belle musique, eh bien, si votre piano est bien accordé, ça fera une belle musique. Voilà. Vous êtes un piano, il y a toujours à accorder un peu. Voilà. Donc, et pour résumer ce qui se passe dans les retraites en silence qu'on est en train de faire. Le sel de la conversation de l'homme est dans son silence. Voilà, tout est dit. Le sel de la conversation de l'être humain, je dirais, est dans son silence. Et Claude Nougaro disait, le silence, c'est la parole des anges. Chaque battement de leurs ailes est une partition. Ah. C'est beau.